Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Europa Voice numéro 146. Comme à l'accoutumée, je suis avec Nathanaël Bloch. Salut Nathanaël.
Salut Christophe.
Alors, eh bien, on va parler d'Europe. Encore une fois, bien entendu, c'est le sujet d'Europa Voice. C'est l'Europe qui n'en finit pas de nous donner de matière à discuter, qui nous intéresse chaque semaine. Et là, on revient sur, eh bien, une potentielle fermeture de certaines frontières en Allemagne avant de parler en deuxième partie d'une démission ultra surprise au niveau des commissaires européens. Mais tout d'abord, donc, cette histoire en Allemagne qui décide de refermer ses frontières et ça a des conséquences pour tout le monde, les voyageurs comme les marchandises. Est-ce qu'on marche pas un peu sur la tête là sur ce qui se passe?
Alors, tout est parti, Christophe, d'un fait divers dramatique, hein, l'attentat. Oui. De Solingen, qui a coûté la vie à plusieurs ressortissants allemands et qui est le fait, en fait, d'un immigré syrien en situation illégale. À la suite, en fait, de cet attentat terroriste, d'ailleurs revendiqué par l'État islamiste, l'Allemagne a décidé, non pas de fermer ses frontières, mais de rétablir des contrôles à ses frontières.
Et ça va à l'encontre d'une des lois fondamentales de l'Europe, qui est la fameuse loi de l'espace Schengen. Ça crispe un peu la situation, quand même. Même si certains pays l'avaient déjà fait. Je crois que l'Italie, la France l'avaient fait ponctuellement. Là, le fait que ce soit l'Allemagne, ça crispe un petit peu quand même les choses.
Alors, pour répondre à la première partie de la question, oui, ça, on a déjà vu ça au sein de l'espace Schengen. Justement, la France, après les attentats terroristes de 2015, avait aussi rétabli des frontières. Évidemment, pendant la pandémie de Covid, on avait eu aussi des rétablissements de frontières et des contrôles aux frontières. La vraie question sous-jacente de cela, Christophe, c'est est-ce que ce contrôle aux frontières en Allemagne signifie-t-il la fin de l'espace Schengen? Parce qu'on le sait, hein, l'espace Schengen, le projet européen, il a d'ailleurs commencé par une coopération économique entre des pays et surtout la libre circulation des biens
et des personnes.
Et des personnes.
C'était la pierre angulaire de l'Europe.
Exactement, et c'est vraiment l'idée, l'idéal de ce marché commun. Là, la vraie question, c'est est-ce que à chaque fois, en fait, si on pousse le raisonnement un peu plus loin, est-ce qu'à chaque fois qu'il y a un fait divers malheureux, on va avoir un rétablissement des contrôles aux frontières et donc on court finalement vers des contrôles aux frontières de manière permanente.
Oui, et même dans l'idéologie, est-ce que ça veut dire que l'idée d'avoir des frontières ouvertes est même maintenant mise, alors j'allais dire challengée en mauvais français, mais est-ce qu'on questionne justement ces frontières puisque dès qu'on a un problème, on a tendance à vouloir les refermer, donc ça veut dire que forcément on questionne la validité de ces ouvertures de frontières au sein des pays entre guillemets clés. On parle de la France, on parle de l'Allemagne.
Bah, le problème aussi, Christophe, quand on fait ces contrôles aux frontières en Allemagne, c'est que on est au centre vraiment de l'Europe. Donc ça veut dire que la France est concernée, la Pologne est concernée, l'Autriche est concernée. Enfin, vous voyez, il y a 8 pays, je crois, qui sont concernés par ces frontières. Donc on n'est pas, à un bout de l'Europe où on peut se dire on ferme les frontières parce que comme ça, quand les migrants, je vous donne un exemple, débarquent en Italie à Lampedusa, si on ferme les frontières italiennes, bon, ça paraît à la rigueur plus facile. Là, on est vraiment au centre, en Middle Europa.
Ouais, et dans un pays qui est ultra industrialisé aussi. C'est un pays, l'Allemagne, qui est clé pour son agriculture, pour son industrie, à la fois automobile, son ingénierie. C'est vraiment un des pays locomotives en termes de fabrication du Made in Europe.
Oui, c'est un pays locomotive. C'est un pays aussi qui a besoin de cette immigration. La question aussi qui est posée avec ce revirement de la politique allemande et qui s'inscrit aussi dans un contexte de satisfaction, j'allais dire, des exécutifs malheureusement d'extrême droite qui sont arrivés au pouvoir, parce que comme vous pouvez l'imaginer, les extrêmes droites, l'AFD est plutôt favorable à ce genre de...
Ça met quand même de l'eau au moulin à tout ce qui à cette rhétorique.
Bah, ça met de l'eau au moulin à cette rhétorique. Je vous ai parlé de l'exemple autrichien ou de la frontière autrichienne. L'extrême droite est donnée aussi potentiellement gagnante aux élections en Autriche fin septembre. Donc effectivement, ça met de l'eau au moulin aux politiques d'extrême droite en Europe. Mais la vraie question en fait de ces frontières-là, c'est un symptôme. La question, c'est encore une fois les politiques communes européenne. Et est-ce que ces retours de contrôle aux frontières ne signent-ils pas finalement les échecs en matière de politique migratoire commune de l'Union européenne?
Ouais, tout à fait. Et ça signale peut-être, si on extrapole un peu ça, une perte de confiance. Une perte de confiance dans un idéal européen, en tout cas une partie de l'idéal européen, parce qu'on le dit, on l'a redit et on va le redire, c'était l'idéal européen, il faisait partie de la liberté de mouvement et des personnes et des biens. Là, aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas en train de voir certains gouvernements qui ont une perte de confiance dans le modèle en lui-même?
Est-ce que l'idéal, Christophe, ne se fracasserait-il pas contre la réelle politique?
Le spleen et l'idéal, vous êtes en train de me dire?
Il y a un idéal effectivement européen, mais il y a aussi une réalité politique. Alors, il faut aussi le dire pour nos auditeurs d'Europa Voice et d'SBS, là on parle de contrôle pour l'instant pas systématique, c'est-à-dire qu'on parle de contrôle aléatoire. La police allemande, je prends l'exemple que je connais bien, entre Strasbourg et Kehl, donc les deux villes frontalières en Alsace, elle va rétablir des contrôles aléatoires dans le tram commun. Elle va rétablir des contrôles aléatoires sur le pont de l'Europe d'ailleurs.
Le fameux pont de l'Europe.
Le pont du Jardin des Deux Rives. Mais ça reste pour l'instant des contrôles aléatoires. Il faut aussi que nos auditeurs comprennent, ce ne sont pas des contrôles, j'allais dire, d'aéroport où vous allez avoir des files entières. Mais l'idée, c'est évidemment que tout ce qui va être camion, j'allais dire mouvement suspect, etc., vont être plus contrôlés que simplement ce qu'on peut appeler en français les migrations pendulaires de travailleurs frontaliers qui vont travailler tous les jours. L'idée, c'est vraiment, encore une fois, il y a un impact économique aussi. L'idée, c'est de ne pas complètement détruire ces migrations pendulaires et l'économie et les créations de richesses qui sont aussi le fait que l'Europe est un territoire, encore une fois, de libre circulation des biens et des personnes et qu'on a des travailleurs frontaliers qui franchissent les frontières entre pays européens tous les jours. Donc pour l'instant, ça reste des contrôles aléatoires, mais encore une fois, effectivement, la question, c'est cet idéal européen de libre circulation. C'est la question aussi du fait divers action-réaction, c'est-à-dire pourquoi est-ce que c'est cet attentat de Solingen qui justifie...
Malheureusement, pourquoi celui-là plus qu'un autre? L'Allemagne a été touchée quand même depuis plusieurs années. Et l'Allemagne, et ça, c'est bien de le souligner aussi, a eu une politique migratoire différente de ses voisins, mais différente de quasiment toute l'Europe quand il en est venu des migrants. On se souvient que Angela Merkel, à l'époque, avait... ouvert grand les bras, mais pas loin quand même de sur cette politique. Ils avaient accueilli un nombre conséquent de réfugiés, les Syriens notamment. Et donc là, est-ce que justement, il y a pas des questions autour de tout ça?
Il y a des questions déjà, j'allais dire, de politique interne. C'est ça aussi qui est, je trouve, intéressant d'analyser. C'est que finalement, c'est une décision de politique interne allemande faite par Scholz et donc les sociaux-démocrates, mais qui plaise à la CDU, aux chrétiens-démocrates, évidemment qui plaît aussi au parti d'extrême droite AfD allemand. Mais cette question de politique interne allemande et ce revirement en fait de Berlin, il a des impacts pour les voisins européens. Et donc c'est là aussi où il y a une espèce de dichotomie. C'est-à-dire que finalement, pour réguler des politiques qui ont des impacts à l'échelle européenne, on voit encore le niveau décisionnaire là, c'est le niveau national. Alors aussi, pour que nos auditeurs comprennent bien...
D'un autre côté, juste en aparté, ça doit aussi rassurer une certaine partie du camp européen qui avait peut-être peur que la souveraineté totale des pays, notamment, on va reparler du Brexit, etc., c'était le leitmotiv pour quitter l'Union européenne. Peut-être que ça peut rassurer certaines personnes qui sont un peu moins européennes en se disant que oui, en fait, les pays peuvent encore légitimiser une certaine prise de leur destin s'ils souhaitent le faire, dans certaines limites.
C'est même dans les textes, en fait, Christophe. Le traité de Schengen, il prévoit déjà qu'un pays puisse rétablir des contrôles à ses frontières, donc en cas d'atteinte à l'ordre public et à la sécurité nationale, pendant 6 mois maximum, renouvelable une fois.
J'allais vous poser la question. Est-ce qu'on a des dates? Est-ce qu'on a des temps? Est-ce qu'on a des limites par rapport à ça?
Là, on va jusqu'en mai 2025, à peu près. C'est renouvelable une fois. Donc, c'est déjà dans les traités. Donc, il y a, j'allais dire, les pays européens, les États membres de l'Union européenne ont déjà, j'allais dire, une marge de manœuvre sur la souveraineté des mouvements et des personnes à leurs frontières. Encore une fois, la question, c'est quand est-ce qu'on va passer du caractère extraordinaire de ces mesures-là, le Covid évidemment, peut-être les attentats terroristes effectivement de Paris, à simplement on les applique quand il y a un fait divers malheureux soit-il, mais qui finalement n'est qu'un parmi d'autres. La question aussi, c'est comme vous l'avez mentionné, ça je crois que c'est important pour nos auditeurs d'Europa Voice et d'SBS, c'est que l'Allemagne avait absorbé un nombre très important de migrants.
Et ça avait divisé l'Europe. Il y avait des pays qui soutenaient cette action, il y a des pays qui fustigeaient cette action d'Angela Merkel.
Voilà, et donc là, la question, c'est aussi, est-ce que c'est pas une manière pour l'Allemagne de freiner aussi un peu ce mouvement-là? Il y avait eu les mêmes cas de contrôle pendant les euros, par exemple, parce qu'on savait que les euros organisés, les euros de football, pardon, sont aussi le théâtre, justement, de mouvements de foule, de personnes qui viennent, etc., et donc qui s'installeraient de manière illégitime en Europe. La question aussi, c'est que il y a quelque chose de très symbolique, c'est-à-dire que dans l'attentat de Solingen, c'était un migrant en situation irrégulière qui était rentré par la Bulgarie et qui n'aurait pas dû être sur le territoire. Et donc, peut-être aussi dans l'imaginaire, ce qui va se passer, c'est que si on n'est pas capable, encore une fois, d'avoir ces frontières au niveau des frontières de l'Union européenne, ces contrôles au niveau des frontières de l'Union européenne extérieures, les pays ont toute légitimité à le faire. Et donc, encore une fois, on revient à ces questions de politique migratoire commune dans l'Union européenne, et ça n'est toujours pas réglé. On le sait, encore une fois, l'Italie, par exemple, absorbe un nombre trop important de migrants à Lampedusa. On voit ce qui se passe entre l'Espagne et Ciutat Melilla sur les côtes espagnoles. Donc, il y a, encore une fois, on met un petit... ce que fait, en fait, l'Allemagne, c'est mettre un petit sparadrap sur quelque chose qui se rapproche plus d'une hémorragie, en tout cas d'une blessure plus importante. Et la réponse, encore une fois, elle est temporaire. Si on veut vraiment incarner le projet européen de libre circulation des biens et des personnes et être dans cette idée-là, il va falloir que les États membres réfléchissent de manière plus globale et pas simplement aller et appliquer ce qui est effectivement dans les textes, qui sont ces fermetures temporaires de 6 mois, renouvelables une fois, des frontières, enfin, contrôle à leurs frontières.
Ce qui est sûr, c'est qu'on sera bien au-delà de l'épisode 146, 147, 150, quand l'Europe aura trouvé une solution à ce problème. Allez, on va passer à la deuxième partie de notre Europa Voice, toujours avec Nathanaël Bloch. On va parler maintenant de cette démission, allez, moi je vais le dire, surprise, de Thierry Breton, commissaire européen. Il était très présent, très vocal ces derniers temps. Enfin, c'est dans son activité, on se rappelle de lui, notamment contre toutes ces réformes, ces prises de mesures qui avaient été faites contre les réseaux sociaux et sur la défense de l'identité et de la vie privée des Européens, qui est peut-être un des blocs les plus protégés par ses autorités. Aujourd'hui, Thierry Breton, il a décidé de démissionner. Alors, on va déjà ouvrir là-dessus. Est-ce que la démission, un, pour nous, elle a été surprise, mais est-ce qu'elle est réellement surprise? Et deuxièmement, quand on voit le pédigré du monsieur, il a été ministre de l'économie sous de Villepin. Est-ce que là, on verrait pas, justement, le nom prochain ministre des Finances ou un des ministres clés, le ministère clé du gouvernement Barnier qui se fait attendre?
Alors,
il y a beaucoup dans
sur la partie européenne, on le savait, hein, les relations était plus que tendu, c'est un euphémisme.
Avec von der Leyen.
Avec Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, et Thierry Breton. Il a critiqué ouvertement la présidente de la Commission. Bon, il l'a fait évidemment avec une lettre ouverte et plusieurs tweets dont il est familier une fois qu'il a annoncé cette démission. Mais même au moment des élections européennes, du renouvellement du mandat d'Ursula von der Leyen, il se posait la question du bien fondé, justement, d'avoir pour 5 ans de plus et 25 ans au total un membre du Parti populaire européen, une espèce de copinage. Donc Thierry Breton, il a été très critique, très vocal à l'égard de Ursula von der Leyen. Et finalement, c'est pas tellement une surprise qu'il démissionne ou qu'il soit démissionné par la présidente de la Commission. Il y a aussi un timing, vous l'avez mentionné. Il y a un timing, c'est-à-dire qu'on arrive à un moment où le président français, il y a deux choses qui sont importantes. D'abord, en fait, et ça, je crois que c'est pour nos auditeurs d'Europa Voice et d'SBS, on a beaucoup vanté les réussites d'Emmanuel Macron sur la scène internationale et sur la scène européenne. Et finalement, c'est une des premières fois où Emmanuel Macron apparaît comme affaibli sur cette scène européenne, ce qui explique aussi qu'il n'a pas toute la latitude, s'il l'avait voulu, pour garder Thierry Breton. Et qu'il a dû obéir finalement aux ordres de la présidente de la Commission, qui se sépare de quelqu'un qui est très critique et qui se sépare aussi de quelqu'un qui, vous l'avez dit, a mis en place un cadre très restrictif sur la protection de la vie privée des Européens, peut-être le cas le plus restrictif et le plus protecteur au monde. mais dans un contexte aussi où il risque de se confronter à un nouveau président américain et où il est déjà en guerre à peine larvée avec Elon Musk. Mmh. Et donc, de la part de Ursula von der Leyen, c'était aussi le bon prétexte pour se débarrasser justement de ce commissaire un peu trop pesant et un peu trop, le mot est peut-être un peu fort, mais un peu trop anti-américain ou pas forcément aligné sur les prérogatives et les velléités.
On lâche un peu de l'Est du côté européen.
Voilà, pas aligné. Thierry Breton n'est pas forcément d'odeur de synthé avec les géants, les GAFAM, etc. Et donc, cet affaiblissement d'Emmanuel Macron sur la scène européenne après les européennes, son gouvernement français démissionnaire, etc., c'est aussi pour la présidente, finalement, remuer le couteau dans la plaie et se débarrasser de ce commissaire un peu trop pesant pour elle et finalement avoir avec elle une simple marionnette d'Emmanuel Macron à la personne de Stéphane Séjourné.
J'allais y venir parce que dans la foulée, Stéphane Séjourné a été nommé en tant que remplacement de Thierry Breton. Stéphane Séjourné, c'est du pur macronisme.
C'était le ministre éphémère des Affaires étrangères dans le gouvernement Attal. Séjourné, c'est le patron aussi de Renaissance. Il était au groupe Renew Europe, le patron aussi du Renew Europe au niveau du Parlement. Donc effectivement, c'est la prolongation d'Emmanuel Macron, mais ce qui permet aussi au président français, finalement, de continuer à avoir un peu de poids justement sur cette scène européenne et de ne pas perdre tous les bénéfices et tous les aspects positifs qu'il a su tirer justement de sa velléité, de sa proactivité politique sur la scène européenne ces dernières années. Et puis encore une fois, Breton était extrêmement critique à l'égard de von der Leyen, pas simplement au moment de demande des élections européennes et de l'acte de candidature pour un autre mandat de la présidente, mais aussi par rapport à certaines nominations qu'il a trouvées comme du copinage au sein du Parti populaire européen, sur les lois, encore une fois, tout ce qui est DSA, donc les lois de protection de la vie privée des Européens et les lois qui régissent aussi l'utilisation des réseaux sociaux. Donc il y a toujours cette confrontation entre Ursula von der Leyen et Thierry Breton. Et puis, qui est aussi dans la tête de Thierry Breton pour savoir ce dont il a véritablement envie avec le retour après presque 12 ans, enfin après 12 ans, le retour de finalement sa famille politique au pouvoir en France.
C'est la question qu'on peut se poser parce que, et là on va faire un petit aparté sur l'état de la situation en France, mais Michel Barnier est toujours Premier ministre, c'est déjà ça, mais il n'y a toujours pas de gouvernement. Et vous et moi on se posait la question la semaine dernière si on avait fait l'Europa Voice à l'heure, à la bonne heure dans la semaine parce que le gouvernement allait-il être nommé dans les jours à venir, etc. Bon, la réalité c'est qu'une semaine après, on n'a toujours pas de gouvernement. On sait toujours pas comment ça se passe. Il y a pas mal de pressentis. Et quelqu'un comme Thierry Breton, alors je sais pas s'il est dans les petits papiers de Michel Barnier. Ce qui est sûr, c'est qu'il fait partie de la même mouvance. Ce qui est sûr, c'est qu'il a l'expérience. Il a déjà été ministre sous De Villepin. Ça serait pas choquant de retrouver Thierry Breton à un ministère de poids comme le ministère des Finances ou le ministère de l'Intérieur, par exemple.
Oui, alors à l'heure où on enregistre, c'est-à-dire 19 septembre, à peu près 3h du matin, heure française, on n'a toujours pas la composition du gouvernement Barnier. Mais encore une fois, ce qui est sûr, c'est que cette nomination un peu improbable du Savoyard, c'est l'opportunité pour la droite historique, l'UMP, les Républicains, de revenir au pouvoir après 12 ans d'absence. Parce qu'il faut le rappeler pour nos auditeurs d'Europa Voice et d'SBS.
Tout en ayant un des plus petits groupes parlementaires. Il faut quand même le rappeler. C'est quand même un des
plus. En étant toujours dans l'opposition. Mais si vous voulez, les ministres de. Parce qu'il y a eu des ministres de droite, en fait,
ouais,
dans les gouvernements Macron, Le Maire, Darmanin. Mais ils ont quitté les Républicains. Ils n'ont pas rejoint, ou ils ont rejoint En Marche et Renaissance. Là, c'est l'occasion pour ceux qui n'ont pas quitté le bateau de revenir au gouvernement malgré le fait d'avoir le quatrième groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Et donc, hasard du calendrier ou pas...
On peut comprendre que ça pique, quand même. À certains endroits, on peut comprendre que ça pique.
C'est le compromis européen. Là, on est vraiment au cœur de ce compromis européen. C'est-à-dire, est-ce qu'on aura un gouvernement qui ira... Alors, il n'ira pas jusqu'à la France insoumise et le nouveau Front républicain, mais est-ce qu'on aura ce gouvernement qui ira de En Marche, Renaissance, jusqu'aux portes de l'extrême droite. Et dans ce cadre-là, l'épicentre, ou le barycentre plutôt, c'est effectivement les Républicains. C'est la droite qui est au centre de cette alliance qui va du centre à l'extrême droite. Et donc, Thierry Breton, effectivement, dans la liste de ceux qui, à droite, n'ont pas encore quitté le navire ou n'ont toujours pas quitté le navire, ben, c'est un grand nom, au même titre que des Xavier Bertrand, Laurent Wauquiez, etc. Voilà. Sinon, après, c'est des seconds couteaux.
Et c'est vrai que la bataille, elle est au sein des Républicains, justement, pour pouvoir exister. Hein. Vous nommez Laurent Wauquiez. Il est, entre guillemets, pressenti à l'intérieur. Laurent Wauquiez, c'est, et j'ai bien aimé que vous ayez dit Michel Barnier, le Savoyard, parce que Laurent Wauquiez, c'est sa région. On sait quoi sur la relation entre les deux hommes?
Bah, c'est des historiques, hein, de ce parti. C'est pas la même génération aussi.
Non,
hein, c'est
fait,
c'est la génération d'après. Wauquiez, c'est la génération Copé, Bertrand, etc. Wauquiez, Michel Barnier, c'est aussi un peu un des derniers dinosaures de la droite encore en activité. Il y en a quelques-uns encore actifs aujourd'hui, comme par exemple Gérard Larcher au Sénat. Mais donc voilà, c'est deux générations différentes. Laurent Wauquiez, c'est aussi quelqu'un qui a des responsabilités au sein du parti, alors pas toujours avec un grand succès, qui a à un moment créé aussi une espèce de sous-mouvement qui s'appelait la droite sociale au sein des Républicains, enfin l'UMP. Mais voilà, en tout cas, ça reste encore une tête d'affiche. Il est à la tête d'une grande région post-redécoupage. Donc voilà, c'est quelqu'un, si la droite doit revenir au pouvoir, avec qui Michel Barnier doit compter. Après, les affinités ou les inimités personnelles, je n'en suis pas sûr. Mais en tout cas, Michel Barnier n'a pas non plus un énorme pool au sein de la droite.
Exactement.
Mais lui, il l'a dit tout de suite. Lui, son idée, c'est un gouvernement avec plusieurs sensibilités. Donc, de toute façon, il n'a pas besoin d'avoir un énorme casting. La question, c'est qui va dire « Moi, j'y vais dans ce gouvernement à condition que telle personne d'un autre parti n'y aille pas ou y aille. » C'est ça, en fait, qui est compliqué. Ce n'est pas tellement de choisir parmi chaque parti qui sont les têtes de pont. C'est de savoir si ces têtes de pont, elles vont accepter d'aller ensemble. Et puis, deuxième élément dont on parle un peu moins aussi ces derniers jours, Christophe, au niveau français, c'est qu'après, il y a encore cette confiance à l'Assemblée nationale. Donc, il faut aussi satisfaire tous ces groupes
parlementaires. Il faut donner la liste, il faut qu'elle soit sélectionnée.
Il faut qu'elle soit satisfaite.
Il faut qu'elle soit satisfaite.
Il ne faut pas qu'il y ait une motion de défiance. Donc, il faut vraiment bien choisir. Il faut qu'il y ait un casting. Donc, ça va, pour moi, ça va vraiment jouer. Voilà, j'accepte celui-là. Si tu acceptes celui-là, etc. Donc, ça, ce n'est pas évident pour Michel Barnier.
Et pour conclure cette question, mais à quel point Michel Barnier est résilient? Ou à un moment ou à un autre, Michel Barnier peut claquer la porte, entre guillemets, en disant « c'est juste infaisable ».
Alors, Michel,
est-ce qu'il y a cette possibilité-là?
On ne lui souhaite pas, d'abord, pour le...
pour la France.
Pour la France, non. Ce qui est intéressant avec Michel Barnier, et c'est un peu aussi... C'est intéressant que ça s'inscrive dans cet épisode entre Thierry Breton et l'affaiblissement, finalement, d'Emmanuel Macron sur la scène européenne. C'est que Michel Barnier, et on l'a vu dans un des précédents épisodes d'Europa Voice, il a une stature extrêmement importante. Il est connu à Bruxelles, à l'échelle européenne. Sur la scène politique française, alors oui, il a été 4 fois ministre sous Chirac et Sarkozy notamment, ministre des Affaires étrangères, mais il n'a pas encore laissé d'empreinte. Et donc, je pense aussi qu'il a réussi à se faire convaincre parce que c'est l'opportunité pour lui, voilà, de laisser un peu un leg, une legacy en mauvais français, en anglais, sur la scène politique intérieure. Donc, je pense que sa capacité de résilience, elle est aussi à analyser à l'aune de sa volonté de laisser une empreinte telle qu'il l'a laissée sur la scène européenne. Encore une fois, Michel Barnier, c'est quand même le monsieur négociation du Brexit.
Il a eu un rôle
hyper important.
Il a sauvé l'Europe dans une certaine mesure.
Voilà, il est connu. Il a eu un rôle important. Il est dans l'histoire européenne, Michel Barnier, vraiment. Ouais. Alors, il est dans l'histoire française de manière anecdotique parce que ça a été le plus jeune député élu en 78, si je me trompe pas. Il était d'ailleurs conseiller départemental général quelques années avant. Donc,
et aujourd'hui, le plus vieux Premier ministre.
Voilà, bon, ça, c'est de l'anecdotique. Sur la scène européenne, il a marqué son temps. C'est le monsieur Brexit, c'est le négociateur en chef. C'est celui qui a annoncé en décembre 2020, ça y est, l'Union européenne et les États membres de l'Union européenne et le Royaume-Uni ont trouvé un accord, une solution de sortie. C'est lui qui l'a annoncé. il a vécu, il a marqué l'histoire européenne.
C'est aussi lui, si on fait une aparté, c'est celui qui a renvoyé dans les cordes plusieurs propositions britanniques pour le bienfait de l'Europe.
Exactement.
C'est aussi ça, il a défendu les droits des Européens, il n'a pas accepté le premier deal venu, on se souvient, et on peut revenir dans...
Le backstop irlandais,
voilà, il y a eu énormément de choses avec tous les différents premiers ministres britanniques. Eux, ils ont sauté, lui, il n'a pas sauté.
Lui, il n'a pas sauté, il a d'ailleurs dû négocier avec différents premiers ministres britanniques. Et bien là, c'est l'occasion pour Michel Barnier de laisser aussi sa marque sur la scène intérieure en politique française, politique nationale. Donc je pense que voilà, sa capacité de résilience, pour répondre à votre question, elle doit être analysée à l'aune de cette opportunité qui ne se représentera plus pour lui d'être un grand Premier ministre dans un moment important d'instabilité politique en France.
Et bien on a tout plein d'épisodes d'Europa Voice devant nous pour en parler. Merci Nathanaël.
Merci Christophe.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.